Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas.
Avant de commencer cet épisode, je voulais prendre 30 secondes pour vous parler un peu du développement de Cinécure. Ça ne vous a pas échappé, je propose pas mal de contenu entre les différents rendez-vous du podcast et la chaîne YouTube, et je ne vais pas vous mentir, mon but est à terme de vivre de tous ces projets que je propose, d'une manière ou d'une autre. Pour y parvenir, j'ai besoin de vous. Pas d'affolement, je ne vais pas vous demander d'argent, du moins pas pour le moment, mais quelque chose qui peut me changer la vie sans trop bousculer la vôtre. Si vous aimez le podcast, prenez 5 secondes pour le noter 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Je vous remercie du fond du cœur, parce que ça peut potentiellement changer ma vie. Et maintenant, on y va. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinexplore. Tous les derniers mercredis du mois, je vous propose de passer de l'autre côté de l'écran avec moi et de m'accompagner dans mes rencontres avec les professionnels qui font l'industrie du cinéma, de près ou de loin. IL peuvent être directrices de cinémathèque, passionnées, travailler au financement des films, festivalières ou festivaliers, scénaristes ou même youtubeurs cinéma. IL sont quoi qu'il en soit des actrices de cette industrie et ont forcément des choses à raconter. Et ça tombe bien parce que moi j'ai envie de les écouter toutes ces choses-là. Pour ce deuxième épisode, je discute avec Stéphane Bonato, projectionniste de formation mais employé polyvalent au cinéma Utopia que les Bordelais reconnaîtront. Si je l'ai au début contacté pour son travail de projectionniste, la discussion a vite dérivé, vous vous en rendrez compte, sur des thèmes comme la programmation, la façon dont nous regardons les films, le rapport des gens à la salle et bien entendu la fameuse crise du cinéma. Je vous précise d'ailleurs que cette interview a été réalisée à l'intérieur de l'Utopia à la fin du mois de novembre 2021, alors que les cinémas venaient de réouvrir et qu'il y avait encore quelques interrogations quant à leur fréquentation. Si vous aimez les digressions, vous allez être servi. C'est parti. Bon, avant toute chose, merci beaucoup de m'accorder un peu de ton temps et pour cette interview. Ma première question est parfaitement prévisible. Qu'est-ce que c'est un projectionniste ?
Projectionniste dans un cinéma, c'est la personne qui est responsable en fait tout simplement de la projection du film, donc la retransmission visuelle et sonore du film.
D'accord, donc c'est toi qui t'assures que le film passe bien. Quoi,
voilà, c'est ça. Okay. En amont, il y a du travail et une fois qu'on a démarré la séance, il n'y a finalement plus grand chose à faire en fait. Ouais. Tout se passe en amont. Quoi.
C'est-à-dire ?
Maintenant, c'est du numérique. Depuis 10 ans, toutes les salles en France sont numérisées.
Ouais.
Donc, il n'y a plus beaucoup de 35. Moi, ça fait 22 ans que j'ai le CAP de projectionniste. Donc, quand j'ai commencé, c'était du 35 mm. Donc, c'était très sympathique. On avait des marmottes, des grosses boîtes avec des pellicules de 20 minutes à peu près, des bobines de 20 minutes.
Ouais.
Donc voilà, on les assemblait une à une pour faire une grosse bobine et qui donnait voilà, la durée du film. Donc bon, un film de 6 bobines qui faisait, voilà, qui faisait 2 heures.
Ouais.
Titanic, pour en citer celui-là, parce que c'est au moment où j'ai commencé en plus, quoi, qui faisait 3h20, il en faisait un peu plus. Quoi.
Ouais.
Il en faisait, une dizaine, voire une douzaine. Donc voilà, il avait du mal à loger d'ailleurs sur la bobine principale. Donc celui-là encore ça va, mais quand on passait les 3 heures et demie, en général, on était sur 2 bobines.
Ouais.
En tout cas, il n'y a plus l'image qu'on peut avoir. On parlait de films comme Cinéma Paradiso ou Fight Club, où on voit les changements de bobines, en fait.
Ouais, j'allais te demander.
Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le double poste. Ça existe encore, hein, comme le 35 peut exister, mais depuis les années 80, en fait, on a des grosses rembobineuses qui fait qu'on met le film sur d'un seul tenant, qu'on a pu être là toutes les 20 minutes. C'est-à-dire qu'on reçoit le film, donc on colle bout à bout.
Ça, c'est ton travail en préparation.
Ouais. Voilà, en préparation. Et après, on projette le film, donc on vérifie si c'est bien cadré, on vérifie si c'est bien net.
Ouais.
On vérifie voilà, la hauteur des sous-titres quand c'est sous-titré. Donc ça, c'est, là, je te parle de avant 2010.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et depuis 2010 ?
Depuis 2010, c'est chiant à mourir. Depuis 2010, on reçoit des disques durs dans un premier temps. Maintenant, avec la fibre, il y a pas mal de cinémas, pas tout le monde, hein, parce qu'il y a dans des endroits où il n'y a pas la fibre, même dans des grandes villes. Avec la fibre, on reçoit même les films en dématérialisé, donc on les reçoit via voilà, les canaux internet. Donc c'est des fichiers.
Mm-hmm.
Donc c'est des fichiers assez lourds, hein, pour le coup, parce que là on est sur de la grosse qualité, sur du 2K, 4K, des choses comme ça. Donc un film d'animation pour enfants qui va pouvoir faire 40, 50 gigas, sur des longs métrages selon voilà, le format, selon la durée, ça peut monter jusqu'à 200, 300 gigas.
Ah, la vache, ouais.
Donc on a des grosses bibliothèques en dizaines de terras.
Oui, c'est ça, vous êtes obligé de vous équiper derrière.
Alors l'informatique. Ouais,
c'est ça.
Donc on est passé du mécanique en fait à l'informatique.
Ouais.
Et ça, c'est bien dommage parce que du coup, en fait, on est carrément dans l'obsolescence programmée.
Ouais.
Alors qu'avant, avec la mécanique, un projecteur 35, il durait 10, 15, 20 ans. Et là, nous, ça fait une dizaine d'années qu'on est équipé en projecteur numérique. Et on a déjà changé 2 sur 5.
Ah,
donc, et ça a un coût. Ça n'avait pas le même coût une fois qu'on avait investi dans un projecteur 35. Voilà. Donc, après, du coup, on n'a plus du tout à gérer la stabilité de l'image,
ouais.
Le cadrage. En fait, le projectionniste n'a plus rien à faire. En fait, ne touche plus du tout à l'image qui nous arrive. Il y a même des réglages qui sont faits sur le projecteur, mais c'est des réglages un peu d'usine. Et après, ils sont faits avec des mires spéciales et tout. Nous, on n'y touche pas à ça. En fait,
ouais.
C'est en labo quand le film est fait sur le format donc DCP, c'est le nouveau format, le format pour les salles de cinéma. Tout est fait là. Donc du coup, nous, en fait, le projectionniste n'a plus rien à toucher. On n'a plus que finalement le niveau sonore, parce j'ai parlé de l'image, mais il y a le niveau sonore où là, effectivement, nous, on fait des tests avant de passer les films. On fait des tests en salle, on vérifie le niveau sonore parce qu'il fluctue d'un film à l'autre selon les ambiances, selon les voix, enfin, et selon le mixage. Nous, on ne touche pas non plus. Donc, c'est vraiment, il y a une grosse différence entre le 35 où on montait les copies, on les démontait aussi. Il y avait toujours, et puis, du coup, techniquement, il y avait un nombre de copies limité pour le pays et on ne pouvait pas en avoir plus. Ou alors, il fallait en retirer, ça avait un coût. Là, maintenant, la copie d'un DCP, c'est la copie d'un disque dur, c'est la copie d'un fichier.
Ouais.
Donc, ça n'a pas vraiment de coût. C'est-à-dire que, pour le coup, les distributeurs qui nous donnent les films, eux, leur coût a vraiment baissé, a vraiment énormément baissé. Nous, c'est plutôt l'inverse, puisque du coup, avec ces histoires de numérique, on a quand même des cartes vidéo qui sautent, enfin, tout ce qu'on peut avoir dans un ordinateur ou dans un projecteur, mais à grosse échelle. Et voilà, dès qu'il y a une pièce qui saute, ça se compte en centaines d'euros. Voilà.
Tu reçois le film du distributeur, t'en parlais à l'instant.
Ouais.
C'est quoi ensuite la chronologie? Comment ça se passe? Tu reçois le fichier, tu le testes
Nous, on reçoit les films et on les décompte. Alors, soit il y en a qui sont cryptés, en fait, donc le distributeur nous donne une clé qui décrypte le film pour un projecteur donné. Donc, chaque projecteur dans chaque salle de cinéma de France a un numéro de série. Donc, il est décrypté pour ce projecteur en particulier sur un moment donné. Ça peut être un jour, ça peut être une semaine, ça peut être une heure, ça peut être 6 mois, ou il n'est pas crypté,
ouais.
Ce qui est clairement le plus simple pour
oui.
nous. Après, c'est une histoire de confiance, c'est-à-dire que nous, on passe les films, c'est déclaré. Ça veut dire que on passerait des films qui sont par exemple pas cryptés, qu'on annoncerait pas au distributeur et qu'on ferait par exemple du black, mais faut pas rêver, quoi. Je veux dire, ça se repère assez facilement. Donc bon, ce système de cryptage, c'est plus un blocage qu'autre chose. Mais ça, c'est de toute façon cette numérisation, tous ces cryptages, ça vient des États-Unis. Hein,
ouais.
Donc, les flippés, c'est eux. Hein, sont vraiment. Donc c'est eux qui ont imposé ce modèle du numérique. Et parce que c'est pareil, ce numérique nous était quand même imposé. Effectivement, il y a une stabilité, il y a une qualité d'image, il y a quelque chose. Mais sur un système comme des multiplex avec 10, 15, 20 salles, on comprend tout à fait le côté automatisation de la chose. Et puis, il y a un projectionniste qui fait juste play et puis qui s'occupe de rien.
Ouais.
Ce n'est pas le même travail, effectivement, quand on a des petites salles, quand on a des films qui sont en multiprogrammation. Et en fait, ce modèle-là, en fait, c'est clairement un modèle apporté par les gros groupes américains et qui s'adapte très, très bien aux gros groupes français aussi. Les gros multiplex, même si après nous on a notre avantage, ça permet d'avoir des copies. Alors nous c'est pas le problème, mais les cinémas qui sont en milieu rural par exemple, c'est vachement intéressant pour eux parce que ça leur permet d'avoir des copies beaucoup plus tôt, alors
ouais.
qu'avant avec les copies 35, comme il y avait un nombre limité, d'abord ça transitait sur les grosses villes ou les moyennes, et ça allait en profondeur mais bien plus tard. Là
ouais.
maintenant ils l'ont pas forcément tout de suite le film, mais ils l'ont au bout de 2, 3, 4 semaines, donc ça, il y a quand même des avantages, on va dire, techniques. Là, je suis vraiment en train dans
oui,
la technique.
Oui, bien sûr, non, mais c'est ce qui nous intéresse.
Mais voilà, donc du coup, il y a des avantages et des inconvénients. Si on parle de l'image, moi, je le vois pas mal avec les chefs op et certains réalisateurs qui continuent à tourner en 35 parce qu'ils préfèrent quand même, il y a une certaine chaleur, il y a un certain grain avec le 35 qu'on perd avec le numérique.
Mmh.
Le numérique, il y a une image quand même assez, finalement, froide, même si on rajoute de la colorimétrie, il y a une image quand même qui est plaquée, qui est pasquée avec le 35. Et on voit d'ailleurs tous les films qu'on passe maintenant sont en numérique, quasiment. Et on voit ceux qui sont tournés en 35 et du coup après numérisés. Il n'y a vraiment pas le même travail sur l'image. Nous, on a gardé en fait deux projecteurs 35 mm. On a pu garder dans des cabines en fait deux projecteurs qui tournent de temps en temps. D'ailleurs.
J'ai vu ici l'avocat de la terreur qui était
exactement,
une copie 35.
L'avocat de la terreur, voilà. Il y avait Barbet Schrader qui était là, tout à fait. Là, ce soir, il y a une programmation sur un documentariste Jean-Daniel Paulet et il y a un des deux films qui est en 35. Donc de temps en temps, effectivement, mais très peu, on a 5-6 copies dans l'année peut-être qui en 35. Ouais. C'est les films qui n'ont pas été numérisés, qui ne sont pas disponibles en fichier numérique ou quelque chose. Donc c'est des raretés quoi, et qui sont encore disponibles en 35 en état en tout cas passable. Quoi.
Ouais.
Ça nous permet de ça et nous, c'est vrai que c'est toujours un petit plaisir. Nous, avec Utopia, on est tous en fait polycompétents. On fait de la projection, mais on fait de la caisse, de l'administratif. Hein, chacun après un peu à des responsabilités différentes, mais on a tous travaillé avec du 35. On est tous là depuis 10, 15 ans, 20 ans. Donc nous, c'est toujours un petit plaisir de recevoir une copie 35, de la monter, de la projeter. Parce que ouais, moi, si je suis venu aussi dans ce métier-là, c'est pour l'univers du cinéma. Et puis voilà, effectivement, le travail de projectionniste qui est un côté un peu artisanal, quoi, qui n'est plus du tout maintenant. On est devant des écrans d'ordinateur toute la journée à vérifier donc des films qui sont cryptés. Si on a les clés de lecture, donc les fameuses KDM, si le DCP est la bonne version, si on a bien les sous-titres, et après on fait des playlist avec des macros. Les macros, en fait, c'est les informations qu'on envoie, c'est-à-dire le format, éteindre ou rallumer la lumière, mettre le niveau sonore à tel niveau. Enfin voilà, que des trucs programmés quoi. Comme on fait une playlist.
Alors tu parlais, je voulais finir sur cette question de la chronologie, mais on y reviendra peut-être après. Tu parlais de ton parcours, tu disais moi pour la raison pour laquelle je suis venu, raconte-nous un peu ton parcours parce que ça m'intéresse. Comment t'es arrivé ici, pas forcément à l'Utopia, mais surtout.
Non, mais moi j'ai commencé. Moi je suis pas très loin en fait. Je suis originaire de Bergerac et il se trouve que mes parents étaient fleuristes et on avait un magasin en face du cinéma à Bergerac et ça a changé de patron en 88. Et le directeur, il est venu voir mes parents en disant « Bon, ben, on va faire un deal, vous nous fleurissez, vous nous donnez des plans, tout ça, et puis vous avez le ciné gratuit. » Et donc voilà, donc depuis en fait, que j'ai 8 ans, je ne payais pas le cinéma. Donc du coup, de là est venu assez rapidement mon amour pour le cinéma et l'envie de travailler dans ce milieu-là, mais où je ne savais pas trop exactement. Et au départ, peut-être être réalisateur, monteur, cadreur, je ne sais pas. Voilà. Puis après, j'ai vu un peu ce que c'était les tournages. Je me suis dit, ça a l'air quand même d'être un peu chiant. Tu t'attends beaucoup, en fait. Depuis, j'ai participé à des tournages, j'ai visité des tournages, j'ai vu qu'effectivement, il y a un rythme assez particulier. C'est super, hein, c'est vachement bien, l'envers du décor, tout ça. Mais moi, j'aimais bien l'activité, en fait, finalement, d'un cinéma, avec le rapport avec les spectateurs. Ouais. Ça, là. Et donc, je fais un stage entre ma seconde et ma première, je fais un stage au cinéma. Donc en face du magasin de mes parents auquel je rentrais depuis 10 ans comme ça, je vais voir tous les films. Je fais un stage pendant l'été, je me dis mais en fait c'est vachement bien, c'est ça que j'ai envie de faire quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait pour bosser dans un cinéma, il y a quoi comme diplôme? Il n'y a qu'un diplôme, il y a un CAP de projectionniste, il n'y a que ça. Il n'y a pas de diplôme même de directeur, de quoi que ce soit. Il n'y a rien. Il n'y a qu'un CAP de projectionniste. Après, le reste, à l'époque encore, on parle des années 90, tout le monde quasiment montait petit à petit dans les cinémas. Il y en a qui commençaient, enfin, les directeurs maintenant qui ne sont pratiquement plus, mais qui avaient commencé comme contrôleur, comme caissier, à la confiserie. Enfin, donc du coup, au lieu de passer en terminale scientifique, pour passer un bac S, BTS audiovisuel, aller à la FEMI sous lumière, j'ai décidé de passer un CAP de projectionniste. Hop, je l'ai eu en un an et ensuite après j'ai bossé, donc j'étais apprenti pendant un an à Bergerac, j'ai travaillé après pendant un an et demi à La Teste. Donc ça c'est les cinémas grand écran, ça fait partie du même groupe, qui sont Limoges, Bergerac,
Libourne aussi,
Libourne depuis,
Sainte-Eulalie aussi,
et Langon maintenant, et bientôt en Vendée. Voilà, et donc plutôt multiplex, plutôt programmation généraliste. Mmh. Et bon, je me retrouvais un petit peu enfermé, surtout qu'en plus à Bergerac, c'était intéressant. Ce qui me plaisait, c'est que je faisais tout, c'est-à-dire que je faisais de la caisse, je faisais un peu de com, avant les réseaux sociaux, hein, et avant un peu les sites internet. Donc la com, c'était surtout du papier, et discuter, faire un peu de radio aussi, mais faire la projection, forcément.
Ouais.
Mais une fois que j'ai été envoyé à la test, là, je faisais que de la projection, et la rare fois où j'allais dans le hall pour faire du contrôle, il fallait mettre un costume avec un pantalon, des chaussures, un blazer. Enfin, waouh! Ouais. Donc, ça ne me correspondait pas trop en fait, parce que moi, ce qui m'intéressait quand même, c'était le cinéma quand même, en soi. Quoi. Donc, du coup, le cinéma ici à Bordeaux est ouvert en septembre 99. Moi, j'ai embauché à ce moment-là à la test, et au bout de 6 mois j'ai envoyé des CV ici en disant bon, vous cherchez pas quelqu'un, voilà. Et au bout de j'en envoyais régulièrement, j'en ai envoyé tous les 3-4 mois, donc ils ont dû avoir marre au bout d'un moment, ils ont dit bon, on va quand même le rencontrer. Et donc j'ai rencontré les fondateurs d'Utopia, hein, parce qu'Utopia ça a 45 ans d'existence, et le directeur qui est maintenant le directeur d'ici. J'ai rencontré un peu tout le monde, et en fait il se trouve qu'il y avait une place à Utopia Toulouse qui était disponible. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je suis parti à Toulouse, j'y ai travaillé pendant 4 ans. Mmh. Et après je suis revenu ici donc en 2005, il y a 16 ans, je suis revenu ici voilà, pour me rapprocher et de la famille, des amis, et aussi pour travailler avec donc, en particulier le directeur, le gérant d'Utopia Bordeaux, qui est aussi le programmateur des salles Utopia en fait.
D'accord,
c'est
ok.
Utopia, il y a Bordeaux, il y a une salle à Toulouse, une salle à Tournefeuille en banlieue toulousaine, une salle à Montpellier et une salle à Avignon. Et après, une à Saint-Ouen-l'Aumône, région parisienne. Mais eux, ils font leur programmation tout seuls. Après, chacune de ces salles est indépendante économiquement.
D'accord.
Donc, chacun se gère. Voilà. Après, c'est juste la programmation qui est centralisée ici. Mais après, chaque salle, après, voit les films, décide s'ils ont envie ou pas de les passer. Nous, on est juste là. Je dis nous parce que du coup, maintenant, je suis assistant de programmation de Patrick. Donc, je travaille vraiment beaucoup, beaucoup sur la programmation.
OK.
Mais voilà, je fais aussi de la projection.
Et comment ça marche ce boulot de programmation du coup ?
Faut voir des films, beaucoup de films. Je vois à peu près 500 films par an.
Ouais.
Et voilà, on échange un peu nos avis avec les personnes de l'équipe ici, avec les autres personnes et des autres Utopia pour voir un petit peu. Après, chaque ville est différente. On a les implantations sont pas forcément toutes les mêmes. Il y a d'autres cinémas à réessayer dans certaines autres villes. Nous là, on est tout seul, mais à Toulouse c'est pas le cas, à Montpellier non plus. Donc après, ça se fait en concertation avec le distributeur. On discute de, voilà, ils ont un plan de sortie, savoir si on peut sortir le film ou si on aime, si on n'aime pas, si on a envie de le sortir, si on n'a pas envie. Après, c'est les négociations. Voilà. Après, tout ça est très, très subjectif. C'est compliqué. Il n'y a pas un cahier des charges.
Non,
en fait.
Bien sûr.
Sachant que nous, en plus, à Utopia, on travaille vraiment à l'envie. Voilà. Donc, même si on sait que voilà, s'il y a un Almodovar qui sort, comme il y en a un qui sort la semaine prochaine, enfin, on sait que voilà, ça, c'est inévitable. D'une part, parce que c'est un super auteur qu'on suit depuis le début, depuis les années 80. Mmh. Et puis, qu'on sait que le public aime beaucoup et qu'on sait qu'avec ce genre de films-là, on va faire des entrées.
Ouais.
A contrario, là, par exemple, mercredi, on sort un film de Šarūnas Bartas, réalisateur lituanien. Voilà, c'est vraiment, on sait qu'on va faire très peu d'entrées, que financièrement, c'est pas là-dessus qu'on se... Donc, on trouve l'équilibre, en fait, avec des films, ce qu'on appelle arrêt et ses porteurs, et après, une programmation un peu plus pointue, parce que nous, notre cheval de bataille, c'est proposer une diversité du cinéma. Mmh. À Bordeaux, il y a Utopia, mais à côté, il y a UGC, il y a Megarama, il y a CGR.
Si on va un peu plus loin, il y a le Jean Eustache.
Il y a le Jean Eustache, voilà, qui fait aussi de l'ARSC, qui a une très bonne programmation. Mais sinon, c'est que des gros multiplex qui passent tous la même chose. Il y a 15-20 films qui sortent par semaine, donc il y en a 4-5 qui sortent dans les multiplex, tous les mêmes.
Oui.
Et après, derrière, il y en a 10 à sortir. Donc nous, on ne peut pas tous les sortir. Faut faire le tri. Et même parmi... là, je parlais d'Almodovar. Almodovar, il sera... Bien évidemment chez nous, mais il sera dans tous les multiplexes.
Bien sûr, évidemment, évidemment. Mais c'est vrai que si on veut voir le James Bond, c'est pas ici qu'il faut venir.
Non, voilà, ouais, non.
Bon, très bien. Je voulais qu'on revienne sur cette chronologie, parce que ça m'intéresse de savoir, vous recevez les films, vous les choisissez, donc tu nous parlais de négociations avec les distributeurs, vous décidez de le passer, très bien, vous avez les fichiers, vous faites toute votre balance son, enfin tout ce qu'il faut faire, toute la programmation, tout ça. Le film passe, ça y est, ça fait un mois qu'il est là. Vous sentez que ça commence à s'essouffler, que voilà. Qu'est-ce qui se passe après ? Ce fichier devient quoi ? À l'époque du 35, je pense que c'était particulier.
Ça repartait parce qu'il fallait aller dans d'autres salles où ça finissait dans un stock si le film ne tournait plus. Mais là, nous, on en garde certains. Par exemple, on a arrêté Las Niñas, un film espagnol qui se passe sous Franco, où on suit des petites collégiennes et tout. Donc ça, on l'a gardé parce qu'on sait qu'on va faire des séances scolaires avec des profs d'espagnol. On a gardé aussi Eugénie Grandet, par exemple. Eugénie Grandet, pareil. Enfin, en fait, c'est les films qui vont nous servir pour soit des séances scolaires pour après. Donc Eugénie Grandet, adaptation de Balzac, donc avec les profs de français, voilà. Et on a gardé aussi, par exemple, Debout les femmes, le film de Gilles Perret et François Ruffin, où là, on sait qu'on va refaire aussi, sans doute, des séances, peut-être plus avec des syndicats ou des choses comme ça. Mais voilà, il y a certains films. Et puis, pas mal de tout ce qui est film programmation enfant aussi, vraiment très jeune public. Pour tout ce qui est centre d'animation ou école, là, on va arriver sur le mois de décembre. On a 5 salles. Tous les matins, pendant 2 ou 3 semaines, nos 5 salles sont prises pour des séances scolaires. En plus, ça fait 1 an et demi que les gamins, on les voit très peu. Et eux, ça va être trop bien. Ils vont enfin pouvoir sortir de leur classe, aller voir des films. Mais voilà, après, ça, c'est une période de la période de Noël. C'est toujours un peu comme ça. Donc voilà, forcément, on garde un peu les films de l'année. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il nous faut de la place. Il nous faut des dizaines et des dizaines de terras pour les films qu'on passe actuellement et aussi pour s'en garder en réserve. En fait, les films, on les voit de plusieurs façons. En fait, on les reçoit soit en DCP, donc ce qu'on voit nous en salle, soit on reçoit des liens qu'on voit chez nous sur un ordi, enfin sur la télé ou sur un vidéoprojecteur. Mais les films qu'on reçoit donc en DCP, ils prennent aussi de la place et on les garde. Et sachant qu'en plus, on va dire au moins une fois sur deux, c'est les films qu'on sortira un mois ou un mois et demi ou 2 mois après, parce qu'on reçoit quand même les films longtemps en avance pour pouvoir décider. Et puis en plus, nous, on a une programmation sur 5 semaines. C'est-à-dire qu'au moment où on va arrêter notre programmation, ça sera pour dans 2 semaines. Et à dure pendant 5 semaines. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une vision sur 7 semaines.
Ouais.
Donc il faut quand même voir le film pour avoir un peu une idée de quel va être son potentiel. C'est un jeu un petit peu.
C'est un jeu
à savoir si le film il va fonctionner, est-ce qu'il y aura des spectateurs. Donc c'est pareil, on a 5 salles, on a des salles qui font 70-80 places, et après on a une salle qui fait 150 et une autre 190 places. Donc il faut savoir aussi les potentiels, quel film on met dans telle salle. Donc après on peut essayer d'échanger, tout ça. Après ça, on peut modifier, même si les horaires sont imbriqués les unes avec les autres, donc c'est un petit casse-tête. Mais donc voilà, donc nous on voit les films longtemps à l'avance, donc effectivement on a un rôle d'un côté un peu de prescripteur, parce qu'on choisit un petit peu pour le public, et aussi on a un rôle de savoir aussi d'avoir une vision un peu de quel est le potentiel du film. Et même si on estime effectivement que le film va toucher peut-être un public vraiment très très minime, c'est là notre travail aussi de montrer ce film-là. On n'est pas que dans l'économie et de passer ce film-là, parce que c'est important de montrer la diversité et que si on ne les montre pas, il n'y a personne qui les montrera.
Je comprends. Bon, j'imagine, là, on discute depuis tout à l'heure de films. Tu nous dis que tu vois jusqu'à 500 films par an. Moi, je vois beaucoup de films, mais j'en vois quand même pas 500 par an. Je peux te dire que pour en voir 500, il me faudrait beaucoup, beaucoup de temps. Donc, j'imagine que tu es cinéphile, bien sûr. Ou en tout cas, j'espère, parce que sinon, c'est l'enfer quoi, pour toi. tu nous as expliqué comment tu as commencé à t'intéresser. En plus, tu as dû voir énormément de films en salle, puisque tu payais pas le cinéma, comme tu nous l'as dit. C'est quoi les films qui, selon toi, ont fait ta cinéphilie?
Ça, c'est compliqué. C'est toujours les questions compliquées, les films qu'on fait la cinéphilie, les films... Parce que ça s'est construit petit à petit, et il y a encore des films maintenant que je vois, que je découvre, alors soit même des films actuels que je trouve vraiment super, quoi, et des films qui sont sortis il y a 50 ans que je n'avais toujours pas vu et que je vois maintenant.
C'est la beauté du cinéma.
C'est ça, ça ne s'arrête jamais, et je ne suis vraiment pas lassé. Alors qu'effectivement, je vois beaucoup de films, et que par ce travail de programmation et de faire, on va dire, un tri, il y a quand même plein de choses que je vois qui sont quand même un peu ennuyantes ou que j'aime pas, quoi. Donc il y a ces moments, finalement, je dis ouais, c'est super, tu vois les films avant. Ouais, enfin, quand même, nous, en plus, voilà, comme c'est du cinéma art et essai, il y a tout qui rentre dans l'art et essai, quoi.
Ouais.
Tout sauf, effectivement, les blockbusters. Donc, finalement, ça me fatigue beaucoup moins de regarder certains blockbusters, parce qu'au moins, on sait ce qu'on va voir, voilà, il y a de l'action et du machin, de temps en temps, je m'en prive pas. Mais c'est vrai qu'après, non, c'est très, très compliqué de citer des films, même des cinéastes. C'est vraiment super, super, vraiment très, très compliqué. Après, si on joue à ce jeu-là, Je pourrais citer, mais j'en ai là tellement, mais je pourrais citer, je sais pas, Fritz Lang, par exemple.
Justement, j'allais t'en parler parce que vous faites en ce moment, vous organisez. Ouais, comment ça se décide, ça? Comment vous décidez? Parce que vous programmez quoi? 4 films, 5 films de Fritz
Lang? Là, il y en a 4, ouais. Mais là, ça dépend des distributeurs, en fait, parce qu'il y a des distributeurs qui sont spécialisés, en fait, dans les ressorties, dans les, ce qu'on appelle les films de répertoire.
Ouais.
Donc, alors, c'est marrant parce qu'il y a 20 ans, ils étaient 2-3. Hein.
Ouais.
Là, maintenant, il y en a 20, quoi.
Ouais.
Et bah, parce
alors,
que ça.
Je te coupe 2 secondes, c'est quand même très intéressant, je trouve, parce que, bon, moi, je viens souvent donc, ici, à l'Utopia. Mmh. Ça m'est arrivé de voir des films qui étaient en sortie ici ou même dans d'autres cinémas. Il n'y a globalement pas grand monde en ce moment et ça fait partie des questions que je voulais te poser. On y reviendra tout à l'heure. Par contre, dans ces séquences de films de répertoire, ou alors dans ces séances, pardon, de films de répertoire ou de films de patrimoine, on appelle ça comme
ouais,
tu veux,
ça.
Là par contre, les salles sont pleines.
Non.
Enfin, en tout cas, moi, souvent, il y a du monde. Alors, peut-être pas pleine à craquer, non, ok. Non. Mais
ça dépend des séances.
Ouais.
Ça dépend. Ça dépend. On a fait les Jean Vigo précédemment. Ça n'a pas été un succès. Fritz Lang, c'est pas mal. Mais oui, il y en a eu d'autres. Quand on a fait les Rossini cet été, ça a bien marché. Ça dépend, en fait. Et on essaye justement de choisir, pareil, de faire un tri des films qu'on estime. On se dit. Ça, c'est vraiment... Ça, les gens ne l'ont jamais vu. Il faut vraiment qu'ils découvrent. Alors, des trucs soit inconnus ou redécouvertes. Après, voilà, forcément, quand on a des cinéastes comme Fritz Lang, moi, j'aime beaucoup Akira Kurosawa.
Ouais.
Voilà, enfin, il y a certaines cinéphilies. En fait, ce qui fonctionne plutôt pas mal, en général, c'est le cinéma asiatique en répertoire, le cinéma américain et le cinéma italien.
Ouais.
Ça, c'est des trucs qui reviennent, en fait.
Ouais.
Après, on reste pas là-dessus, on va chercher plein d'autres choses.
Non, parce que j'avais assisté à une séance, c'était une journée spéciale sur...
Yves Boisset,
voilà.
Ouais.
Et ça, c'était super
ouais,
aussi.
C'était pas mal, ouais. C'était pas la folie, mais c'était pas mal. Mais parce que justement, on avait réussi à créer... En fait, l'idée, c'est de créer une sorte de synergie avec ces films-là. On passe un film sur une semaine tout seul... Un boissé, il se passe rien.
Ouais.
Là, parce qu'on a concentré aussi. Là, on parle en
bien
plus
sûr.
D'une séance unique. Donc, ça permet de voilà. Et puis, en plus, avec une intervention, tout
ouais.
ça. En fait, c'est le principe d'éditorialiser, en fait. Que ce soit pour la programmation classique, mais pour la programmation de films de patrimoine, c'est pareil. Il faut essayer d'éditorialiser au maximum. On ne veut pas juste balancer les films comme ça. On le fait, hein, mais c'est un peu plus compliqué pour que le public s'y retrouve et il y a un attrait. On s'aperçoit que ça fonctionne bien. Donc, du coup, voilà, il y a 3-4 films de répertoire qui sortent par semaine, ou des fois des cycles. Et nous, on pioche là-dedans, dans les films, soit qu'on connaît. La
c'est
plupart,
ça, les distributeurs vous les proposent ouais. et vous dites, ouais, ça, on va prendre.
Ouais,
quoi.
Voilà. Bon, là, pour le coup, il y en a pas mal qu'on connaît. Là, pour le coup, il y a les Fritz Lang. Là, il y en a un distributeur qui en sort 3 et un autre, on en a sorti un en août. On le savait, donc on s'est dit, tiens, on va attendre qu'ils sortent ces 3 autres, et comme ça, on fait les 4. Donc moi, par exemple, sur les 4, j'en avais déjà vu 2.
Ouais.
Il y en a 2 que j'ai découvert, que j'ai vu. Bon, on a eu pas mal de temps, en fait, il y a 6 mois. On est encore fermé, on a eu presque un an de fermeture.
Ouais.
Donc c'est vrai qu'en termes de visionnage, j'ai eu pas mal de temps, donc j'avais pris de l'avance, hein,
ouais.
Effectivement, quand on a rouvert. C'est vraiment un cinéaste que j'aime beaucoup, et là c'est vraiment intéressant, c'est des films un peu noirs et tout, enfin sa période américaine, et on s'est dit, ouais, non, ça c'est vraiment un bon plan d'attaque. Là c'est pareil, là, la prochaine Gazette, on va faire les films de Truffaut avec le personnage d'Antoine Doinel, là, les 5 films qu'il a réalisés avec Jean-Pierre Léo.
Ouais.
Voilà, ça paraît, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été montrés au cinéma, c'est des films classiques, c'est assez culte, enfin voilà,
ouais.
Non, ça c'est... Puis des fois on se plante, on sait pas, mais comme quand on fait la programmation, on va dire, normale, on a envie de défendre un certain cinéma, certains films, et puis ça rencontre pas le public. Il n'y a pas de règles, mais c'est vrai que c'est un petit plaisir, et nous, systématiquement, dans la programmation, on a 1 ou 2 films de répertoire ou un cycle tout le temps.
Ouais.
Ça fait partie de notre travail aussi, de montrer les films contemporains, de la diversité. Donc de la diversité, ça veut dire pas que français, pas que américain.
Mm-hmm.
Des films de toute l'Europe, des films d'Afrique.
Mm-hmm.
Les films africains, on n'en voit pas dans les autres cinémas. Hein.
Non.
D'Amérique du Sud, d'Asie. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est super important parce que nous, c'est ce qui fait vraiment la richesse du cinéma. C'est vraiment parce qu'on au travers de ça, on découvre aussi les cultures, on découvre la politique aussi qui est menée dans ces pays-là, parce que c'est quand même beaucoup de films aussi qui sont finalement militants ou qui dénoncent des choses. Et nous, c'est une des parties intégrantes de notre programmation et des choix qu'on fait. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a un propos politique, ça nous intéresse, quoi. Ça nous intéresse. Il ne faut pas qu'il y ait systématiquement ça, mais s'il y en a un et puis qu'il est construit, C'est vraiment intéressant parce que c'est quand même un miroir de la société et c'est des choses qu'on peut découvrir au travers de journaux, au travers de reportages. Mais je trouve que que ce soit le documentaire, mais même la fiction, je trouve que le cinéma, il apporte quand même un relief par rapport au monde qui est vraiment très, très intéressant. Quoi.
Ouais, ouais. Du coup, puisqu'on parlait de ça plus ou moins avec les séances de films de répertoire, ouais. Bon, ça fait des années. Bon, là, on est dans un cinéma, donc encore à plus forte raison. Ça fait des années qu'on nous bassine, j'ai la sensation, avec la crise du cinéma. Tu portes quel regard, toi, là-dessus, sur les entrées, les fréquentations ?
La crise, c'est pas assez cyclique, c'est en dents de scie. Il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu... La plus grosse, ça a été en fait dans les années 80, avec l'arrivée de la vidéo, du vidéoclub. Donc là, c'était clair, c'était fini. Vidéoclub, c'est la mort du cinéma, quoi. Bon, on n'est toujours pas mort, le cinéma.
Par contre, les vidéoclubs, oui.
Un vidéoclub, oui, finalement, mais on est passé à un autre système de vidéoclub où on n'a plus besoin de se déplacer, où c'est plus physique, où ça se fait sur Internet. Mais c'est du même ordre. Alors, pour l'instant, on s'inquiète un petit peu, mais là, on est plus dans une reprise, et on n'est même pas encore dans une reprise de crise sanitaire. Tant qu'on ne sera pas revenu sur un truc un peu normal, pour l'instant... On ne sait pas, mais là, effectivement, depuis un an et demi, bon, il y a eu la fermeture, mais les réouvertures, on n'a pas repris le rythme, on va dire, de croisière qu'on avait depuis 10, 20 ans, 30 ans, quoi. Ouais. Avec des hauts débats selon les années, mais voilà, là, clairement...
Tu penses que ça va revenir ? Tu penses que c'est
possible. Après, en fait, comme je ne sais pas comment va se comporter, en fait, on dépend tout simplement de l'épidémie et des moyens qui sont mis en place pour contrer ça, je pense. On est totalement... en fait, on n'y peut pas grand-chose. Si nous, on va continuer à programmer des films de la diversité, à animer nos séances, parce qu'on organise énormément de choses. Et on sait que voilà, faut faire vivre. On ne peut pas juste passer des films. Il faut un peu faire exister les films qu'on passe, les mettre en relief, organiser des projections avec des associations, des choses comme ça. Mais ça ne dépend pas vraiment de nous. Parce que là, ce que je vois, c'est qu'il y a une partie publique qui n'est pas revenue en salle ou qui revient moins. Alors pourquoi ? Y a plein de raisons. Y a des études qui sont faites, mais parce qu'il y a des gens qui ont peur. C'est pas safe, un cinéma, parce qu'il faut savoir quand même que les premiers endroits qui ont été fermés, les premiers endroits qui ont été soumis à des restrictions, les premiers endroits qui ont été soumis à passe, c'est les lieux de culture, en particulier les cinémas. Voilà, c'est pas les centres commerciaux, c'est pas les transports en commun, c'est... voilà. Donc du coup, dans la tête quand même, je pense, d'une partie de la population, c'est pas safe. On n'est pas, alors que il n'y a pas eu de ce qu'on appelle les clusters, les trucs comme ça. Il n'y a rien eu dans les cinémas parce qu'il y a eu les distanciations, les gens portent des masques, c'est très ventilé, c'est des espaces assez vastes. Donc il y a ça. Et puis se rajoute effectivement le port du masque qui peut déranger, la demande du pass sanitaire qui peut déranger, et des personnes qui décident de ne pas se faire vacciner, donc du coup donc ils ne peuvent pas accéder aux lieux de culture, donc il y a plein de petites choses qui font que voilà, si on parle du cinéma à la maison, enfin du cinéma des films vus à la maison, ça existait avant le Covid. Les gens n'ont pas découvert qu'ils pouvaient voir des films à la maison. Ils l'ont sans doute plus utilisé, mais je vois, c'est assez intéressant parce que autant sur une certaine partie du public, on voit qu'on a perdu un public âgé en particulier, mais public enfant et familial, on est en augmentation.
Donc, c'est intéressant.
C'est intéressant. C'est-à-dire que moi, je vois le truc, c'est qu'effectivement, les gens ont pris conscience que leurs gamins sont souvent devant des écrans, hein, même au quotidien, et que donc le cinéma, c'est autre chose. Quoi. Donc je me dis, c'est pour ça, si on regarde ce côté-là, là, je parlais des séances scolaires tout à l'heure aussi, elles n'ont pas baissé, au contraire, elles sont stables, voire un peu plus. Donc on voit bien qu'il y a quand même une conscience au niveau de l'éducation des parents et de venir quand même dans les salles. Donc c'est juste un mode de consommation qui peut changer. Mais voilà, si on parle de Disney, Netflix, tout ça, ils existaient il y a 2 ans. Hein, ouais. Donc moi, ça a toujours existé. Moi, c'est tout. C'est pas la même chose, en fait. On pourrait toujours me dire, ouais, moi-même, j'ai un vidéoprojecteur, j'ai un ampli home cinéma avec des enceintes chez moi et tout, c'est super. mais c'est pas la salle de cinéma. J'aurais jamais la qualité d'image, quoi qu'on en dise, j'aurais jamais la qualité de son chez moi. Bah, c'est pas la même chose. Après, bien sûr, on peut faire pause, on peut faire autre chose, on peut machin, mais c'est un spectacle en fait. C'est comme écouter effectivement ou regarder un live. Voilà, on va voir d'un concert, c'est quelque chose qui se vit, quoi. Même si c'est pas du live forcément un film, quand même. Et puis il y a finalement d'être dans une salle avec d'autres personnes, ça joue énormément.
C'est ça. Ouais.
En particulier, je sais pas, sur les comédies. On va voir une comédie, on peut rigoler chez soi, on est à deux. C'est pas pareil que dans une salle où il y a des éclats de rire. En ce moment, on passe en Changuine, c'est excellent, quoi. Voilà, parce que ça entraîne le rire. Enfin, c'est une ambiance, c'est quelque chose quand même. C'est un spectacle qu'on vit en commun. Après, voilà, c'est des logiques de pensée, de vie. Chacun, voilà, préfère ce qu'il veut. Mais donc non, moi je pense que voilà, c'est surtout, moi je pense, que c'est dû aux conditions sanitaires, parce que j'entends, oui, le cinéma c'est trop cher. Bon. Ça ne me concerne pas, je ne pense pas. Hein, en tout cas, pas Utopia.
Chez vous, voilà, particulièrement
c'est
7 pas.
7 balles maximum, voilà. 4,50€ la première séance, 5€ l'abonnement qui n'est pas nominatif, pas limité dans le temps, donc on voilà, ne pousse pas la consommation. Effectivement, quand je vois que les places sont à 10, 12, 15, 20 balles sur certaines séances, dans d'autres cinémas, en plus en se tapant un quart d'heure, 10 minutes de pub, c'est vrai que nous, on expurgeait ça. Quoi. C'est con parce qu'on gagnait de l'argent avec ça. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi les gros cinémas sont aussi chers, les tarifs, parce qu'ils ont des publicités où ils gagnent beaucoup d'argent, de la confiserie où ils font une marge de malade. En fait, le cinéma, en fait, c'est pour appeler en fait, à consommer. Mmh. À consommer de la pub et à consommer de la confiserie. C'est ça leur modèle, en fait.
Et ils ont les aides aussi, au même titre.
Non, un peu moins. En tout cas, les multiplex, ils n'ont pas, pas d'aide.
Ouais.
Donc, ils n'ont pas d'aide, eux, mais ils n'ont pas besoin d'aide, en fait. Non, ils ont l'air assez solide. On l'a vu là et on le voit même maintenant, parce que moi je parle de la fréquentation qui a un peu baissé. Eux, elle a un peu moins baissé, parce que pour le coup, effectivement, les blockbusters continuent à cartonner toutes les semaines. Il y a voilà un Marvel ou un Disney une grosse production française qui cartonne assez quand même, quoi.
Ouais.
C'est pas on n'est pas au max, mais voilà, donc faut attendre de voir, mais faut attendre.
Ok, bon, très bien. Pour en revenir à ta profession de projectionniste, quel avenir tu penses qu'il y a pour cette profession ? Parce que tout à l'heure, tu nous dressais un portrait, je dirais pas noir, mais pas...
Nous, on fait de la projection, ce qu'on a à faire, et après, on fait autre chose, T'es arrivé, tu vois, je mettais des affiches, on répond à des mails. Si on compare avec dans les multiplex, il n'y a plus de projectionnistes.
Ouais.
Il n'y en a même plus. Vous n'avez même pas un ? Il y en a dans certains, tout est automatisé en fait. Le projectionniste, il est à Paris, dans sa régie, il gère. Où il y a le directeur de la salle qui vient faire un truc le matin, il vient appuyer sur le bouton on et il ne fait plus rien. Ouais. Parce que le programme est fait sur toute une semaine, ils ont fait la programmation, ils appuient sur play et c'est parti. Donc il n'y a plus vraiment de. Voilà, je sais qu'au CGR, il n'y en a plus. À l'UGC, il y a un projectionniste, je crois, pour les deux ou trois lieux, ce qu'on appelle les directeurs techniques.
Ouais.
Donc ça n'existe plus vraiment, quoi. Après, dans les plus petites salles, encore. Mais voilà, dans les salles un peu plus petites, justement, ils ont développé la polyvalence pour que le projectionniste fasse autre chose. Parce que du coup, maintenant, une fois que tout est fait... Après, nous, la différence aussi dans ce type de cinéma un peu donc art et essai, c'est qu'on a, on fait la multiprogrammation. C'est-à-dire qu'avec 5 salles, on va programmer 15-20 films. Si je compare, par exemple, avec UGC qui a 18 salles, il en a autant.
Ouais.
Mais sauf que lui, bah, les films, ils passent 4-5 fois par jour, alors que nous, on va les passer une fois par jour, deux, trois fois des fois, et des fois, on va les passer trois fois ou quatre fois dans la semaine aussi.
Ouais.
Donc du coup, on a beaucoup plus de rotation, et c'est pas le même fonctionnement. Mais bon, après, ça peut toujours s'automatiser, quoi. Hein.
Oui,
c'est,
non, mais bien sûr.
On peut tout faire. Donc, non, le travail de projectionniste, là, maintenant, c'est vraiment de vérifier que les fichiers soient bons, et voilà, et vérifier un peu un niveau sonore, vérifier le format, mais c'est pas très enrichissant, quoi. C'est pas, voilà, y a pas le même, ce que je disais, artisanat de montage du 35, de travail un peu sur l'image. Voilà.
Merci beaucoup pour ton temps.
Avec plaisir.
Et puis à la revoyure.
Ok. Salut, merci.
Salut, merci. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez 5 étoiles sur les plateformes qui le permettent et parlez-en autour de vous, c'est la meilleure manière de faire connaître le podcast. Cinexplore est un dérivé de Cinécure, un podcast créé et réalisé par moi, Charles-Edouard Wasselin, et produit par Adrien Larousé, mon talentueux et patient compère du vaisseau Hypersensas, dont je remercie tous les membres pour leur patience et leur bienveillance. N'oubliez pas que sur le Discord du vaisseau, vous trouverez un channel Cinécure où nous discutons de tout ce qui est abordé dans le podcast et bien plus encore. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cinécure classique et d'ici là, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films. Ciao !